Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Et il est 8h.
Toutes les lignes de votre correspondant sont occupées pour le moment. Merci de renouveler votre appel ultérieurement.
Et déjà, l'embouteillage, alors que la vaccination doit s'étendre demain aux plus de 75 ans, les lignes d'appel pour prendre rendez-vous sont saturées. On a fait le test.
L'islam de France est compatible avec les valeurs de la République. Une charte en réaffirme les grands principes depuis hier. C'était une demande de l'exécutif.
Empoisonné au mois d'août, il est menacé dans son propre pays, mais veut défier le pouvoir. L'opposant Alexeï Navalny doit rentrer en Russie aujourd'hui.
Et puis elle a marqué des générations et continue de se porter partout dans le monde. La Doc Martens a 70 ans et elle va entrer en bourse.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
En théorie, la procédure est simple, un coup de fil, un rendez-vous, et voilà, la vaccination est lancée.
Oui, sauf qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. On sait que les plus de 75 ans et les personnes les plus fragiles vont pouvoir se faire vacciner à partir de demain. Mais déjà, les centres d'appel sont saturés, et même si la situation s'améliore un peu d'heure en heure, il faut être patient. Voilà ce qu'a constaté Théo Manval.
Première bonne surprise, moins de 2 minutes d'attente désormais au numéro national 0800 009 110.
Vaccination, comment puis-je vous aider ?
Sauf qu'une fois en ligne, alors, les conseillers vous renvoient simplement vers les numéros de téléphone des centres les plus près de chez vous. À vous donc d'essayer de prendre rendez-vous. À Paris, ça répond, mais...
Ce matin, en fait, on a donné des rendez-vous jusqu'à tout début février.
Donc là, il n'y a pas de rendez-vous avant début février.
Voilà, oui.
Et la capitale n'a pas la palme des créneaux remplis à perte de vue. Marseille.
J'ai des rendez-vous à partir du 19 février, là, actuellement parlant.
Plus d'un mois d'attente si vous habitez dans le centre-ville. Dans la Loire, rien à Firminy, par exemple, avant le 17 février. N'essayez même pas d'appeler les centres de Quimper dans le Finistère aujourd'hui. La plateforme téléphonique n'ouvre que demain.
Si besoin, faites-vous aider d'un proche.
Avec une charmante voix préenregistrée. Dans l'Ain, comme à Strasbourg, hier, impossible, là aussi, de tomber sur un conseiller.
Les lignes de votre correspondant sont occupées pour le moment. Merci de renouveler votre appel ultérieurement.
Mais via le site internet d'Octolib, on trouvait encore un créneau à Strasbourg hier soir pour une première injection dès mardi.
Théo Manval, et puis on sait qu'aujourd'hui, 1 million de rendez-vous ont déjà été pris.
On s'en est tous rendu compte hier, 18h, ça arrive vite dans une journée.
Ouais, le temps de se promener, de faire quelques courses et hop, il faut rentrer. Le couvre-feu avancé s'applique depuis hier partout en France et ça va durer 15 jours au moins. Nouvelle mesure, plutôt respectée dans le quartier de la Gare Saint-Lazare à Paris où s'est rendu Marion Gauthier.
Quelques minutes avant 18h, difficile d'arrêter des passants. Le pas assuré, mais l'œil fixé sur la montre, un peu moins.
J'ai pas le temps, je suis un peu pressée.
Je suis pressée, ouais.
Il y a beaucoup de monde, on sent que tout le monde est un peu à la bourre, comme moi.
Ouais, là c'est minuté, on a trouvé sur le GPS le dernier magasin, et puis après on prend le métro et on rentre le plus vite possible.
18h, les derniers sacs de course disparaissent dans les bouches de métro.
Bon, y a plus personne, il est 18h, on a l'impression qu'il est 1h du mat', quoi.
Certaines lumières s'éteignent, les rideaux de fer se baissent, les commerçants s'engouffrent à leur tour dans la gare.
Il y avait déjà beaucoup de monde aujourd'hui dans les magasins. Si on avait été ouvert jusqu'à 20h, la foule se serait un peu plus répartie sur la journée.
Ça résonne. 3 personnes seulement sur le quai.
Ça fait bizarre. On se sent un petit peu hors la loi en étant tout seul dans le métro, quoi.
Là, c'est comme si j'ai réservé tout le métro pour moi, tu vois. Alors, t'as ces 2 places, t'es tranquille. Bah, c'est ça le bon côté, que t'es tranquille et tout.
En retard, mais tranquille, persuadé que la police sera indulgente, au moins les premiers jours.
Reportage dans Paris, signé Marion Gauthier. L'objectif de ce couvre-feu, c'est bien sûr de freiner les contaminations. Plus de 21 000 cas ont de nouveau été détectés hier.
Dans l'actualité également, le texte n'a pas encore été transmis à Emmanuel Macron, mais c'est un premier pas. Les musulmans de France ont adopté une nouvelle charte.
Un texte qui réaffirme l'attachement aux lois de la République. Il a été présenté hier par la direction du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Quel en est l'enjeu, Louis Dragnel ?
Alors, politiquement, cet accord est très important, surtout pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les débats en commission sur le projet de loi séparatisme débuteront demain à l'Assemblée nationale et il était hors de question pour le ministre de l'Intérieur de ne pas avoir l'unité affichée du CFCM, principal interlocuteur de l'islam avec l'État. Ce n'était pas gagné, car le week-end dernier, comme nous l'avions raconté ici même, Gérald Darmanin avait reçu séparément chacun des 3 responsables du CFCM qui ne s'entendaient pas, particulièrement sur cette charte. charte des valeurs. Au niveau sémantique, la terminologie a changé après cet échange. On parle désormais de charte des principes de l'islam. Elle garantit l'égalité homme-femme, la compatibilité de l'islam avec la République et le rejet de l'islam politique. Un objectif, pousser les responsables musulmans à sortir de l'ambiguïté entre islam et islamisme. Le sujet est ultra sensible et dès demain, les débats risquent d'être animés entre les républicains qui dénoncent la faiblesse du texte à l'égard de l'islamisme et une partie de la gauche qui y voit une stigmatisation des musulmans.
Louis Dragnel, face au veto du gouvernement français, les groupes de distribution Couche-Tard et Carrefour ont interrompu leurs négociations. Mais les deux dirigeants veulent se revoir. Il n'y aura pas de rachat, mais peut-être des partenariats.
8h05, vous restez avec nous dans un instant. L'opposant russe Alexei Navalny défie Vladimir Poutine 5 mois après son empoisonnement. Il revient en Russie.
Europe 1. Votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre en Russie, c'est un retour risqué, un défi également pour Vladimir Poutine.
L'opposant Alexei Navalny, empoisonné l'été dernier et soigné depuis dans un hôpital de Berlin, Alexei Navalny a décidé de défier le pouvoir russe. Il va rentrer dans son pays. L'accueil qui lui sera fait sera évidemment regardé dans le monde entier. Paul Gogo.
J'ai regardé les vols sur le site de la compagnie aérienne Pobeda et j'ai acheté un billet pour rentrer chez moi. Ce sera donc le dimanche 17 janvier. Je reviendrai à Moscou. Rencontrons-nous.
Hospitalisé en Allemagne depuis son empoisonnement l'été dernier, l'opposant Alexei Navalny promet de faire son grand retour en Russie cet après-midi. Dans cette vidéo publiée en début de semaine, il se dit en assez bonne santé pour rentrer chez lui. Il doit atterrir à l'aéroport Vnukovo au nord-ouest de Moscou à 17h20, heure de Paris. Mais personne n'est capable de dire ce matin ce qu'il adviendra de l'opposant. Sera-t-il autorisé à embarquer à bord de l'avion de cette compagnie russe à Berlin ? Sera-t-il arrêté sur le tarmac de l'aéroport ? Pourra-t-il retrouver ses partisans ? L'hypothèse la plus probable est celle d'une arrestation à la descente de l'avion, car les autorités russes ont transformé une peine avec sursis à laquelle l'opposant avait été condamné en 2014 en peine ferme. Alexei Navalny est désormais officiellement recherché par les services pénitentiaires russes. Il encourt 3 ans et demi de prison. Moscou, Paul Gogo, Europe 1.
Les États-Unis basculeront dans une nouvelle ère mercredi. Le président élu sera investi. Joe Biden a déjà promis une série de décrets dès son premier jour de mandat. Après 4 années de Trumpisme, on s'attend à pas mal de changements. Les rapports entre les États-Unis et l'Europe notamment devraient s'apaiser. Voilà ce qu'explique ce matin Jean-Yves Le Drian dans le journal du dimanche. C'est François Clémenceau qui a interrogé le ministre des Affaires étrangères.
Avec une nouvelle administration, et ça on le constate tous les 4 ans, il y a généralement sur un certain nombre de dossiers sensibles une volonté des Américains de prendre leur temps, c'est-à-dire de faire une sorte de revue d'état des lieux de ce qu'a laissé l'administration précédente. Et là, il y a beaucoup à dire évidemment sur l'héritage des années Trump, mais les Français disent qu'il faut aller vite parce que les questions sont assez urgentes. La question climatique et la pandémie, évidemment. La France est pleine de bonne volonté pour accueillir la nouvelle équipe Biden sur la scène internationale, mais c'est ce que dit Jean-Yves Le Drian, elle sera exigeante, c'est-à-dire qu'elle voudra montrer aux États-Unis que l'Europe a beaucoup changé ces 4 dernières années, qu'elle est aujourd'hui plus forte et qu'elle est donc à même de pouvoir réclamer une relation transatlantique plus équilibrée.
François Clémenceau du journal du dimanche.
Les sports maintenant, Marguerite, c'est cette question. La déprime menace-t-elle le monde du rugby ?
Oui, alors que le championnat de foot lui a repris sans accroc, la saison de rugby se poursuit tant bien que mal. 10 de matchs ont dû être reportés, il n'y a plus d'entraînement à La Rochelle, 15 cas de Covid ont été détectés dans le club. Le rugby tourne au ralenti, Simon Rubin.
Entre les cas de Covid qui se multiplient dans les clubs, une Coupe d'Europe suspendue et des stades toujours vides, il y a de quoi avoir le cafard. Les présidents, entraîneurs et joueurs du top 14 sont nombreux à s'enfoncer dans la déprime. Aujourd'hui, on ignore dans quel état on arrivera au bout de la saison. Si on y arrive, confie un président de club. Même constat dressé par Jean-François Fontenot, président d'Agen, dernier au classement du top 14.
Grande inquiétude pour cette deuxième partie de saison, puisqu'on espérait bien pouvoir démarrer cette seconde partie de saison en ayant du public. Au regard de ce qui est annoncé par le gouvernement, nous pensons que cette situation va perdurer. Il y a de l'inquiétude, bien sûr, et qui grandit. Et puis, on se sent totalement impuissant, surtout. Donc, on se dit, on va jamais en sortir.
Et l'arrivée du variant anglais du coronavirus dans certains clubs français a aussi relancé la psychose. Parmi les recommandations de la Ligue dernièrement, que les joueurs limitent les célébrations après un essai, histoire d'éviter les contacts, plutôt qu'au casse dans un sport comme le rugby.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. En football, le PSG hier soir a repris la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire sur Angers. Ce soir, il y aura 6 rencontres, dont le match entre Lyon et Metz à 21h.
Et puis en tennis, l'Open d'Australie est maintenu malgré le confinement de 40. 47 joueurs.
Oui, ils sont cas contact après plusieurs tests positifs dans leur avion. On ne sait pas pour l'instant s'ils pourront reprendre l'entraînement et jouer le premier tour.
Allez, on vous parle d'une saga pour finir ce journal. My Generation, ce sont les Who qui chantent. On va pas parler d'eux, mais de leurs chaussures.
Oui, ces boots à lacets que l'on connaît encore aujourd'hui, les Doc Martens. Elles sont indémodables, elles ont 70 ans et elles vont, tenez-vous bien, entrer en bourse. 70 ans de succès raconté par Carole Ferry.
C'est l'incroyable histoire de la Doc Martens, une chaussure orthopédique au départ, fabriquée par un médecin allemand, le docteur Klaus Martens. Elle est censée à l'époque faciliter la vie des ouvriers, postiers, employés du métro londonien, grâce à sa semelle sur coussin d'air. Très vite, les policiers britanniques l'adoptent également. Et puis dans les années 60, ce sont les skinheads qui la chaussent. Les punks s'y mettent aussi dans les années 70. Et puis Patti Smith, Iggy Pop, les chanteurs de The Who ou des Sex Pistols en font rapidement l'accessoire indispensable de la jeunesse contestataire. Aujourd'hui, il s'en vend 11 millions de paires chaque année. Une toute petite partie est encore fabriquée en Grande-Bretagne, le reste au Vietnam et en Indonésie. Le symbole de l'anticonformisme a été racheté il y a 6 ans par le fonds d'investissement britannique Permira, qui prévoit donc de coter en bourse 25% du capital. Aucune date n'a été avancée, mais il y a un projet derrière, doubler le nombre de magasins, il y en a 110 aujourd'hui à travers le monde, et développer les ventes en ligne pour être moins dépendant des revendeurs.
Carole Ferry.
Merci Marguerite, à tout à l'heure pour le dernier journal de cette matinale à 9h.